Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut à toi, c'est Camille. J'espère que tu vas bien. Tu es sans doute en période de partiel ou peut-être même qu'ils sont déjà terminés pour toi. On croise les doigts pour les résultats en juin. À présent, installe-toi confortablement pour le podcast Écoute un métier. En ce mois d'avril, je finis les podcasts en lien avec les professions de l'enseignement. Ce troisième épisode se conclut alors avec les professions d'enseignant-chercheur en lettres à la faculté. Mon invité n'est d'autre que Monsieur CIT qui exerce à la faculté de Tours. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Monsieur CIT, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à la faculté de Tours depuis 4 ans. Vous êtes spécialisé dans la littérature du XVIIIe siècle. Cette interview sera en deux parties, une première sur votre parcours, puis une autre plus générale sur l'université. J'ai donc commencé par une première question. Quelle formation avez-vous suivie et qu'est-ce que vous avez appris lors de vos études?
Alors, quelle formation? Ma foi, une formation somme toute classique. J'ai fini par avoir un bac littéraire J'ai postulé à une classe préparatoire, j'ai obtenu, mais j'ai donc fait deux années d'hypocagne de cagne, comme on dit ordinairement. Je crois que c'est première supérieure, mais j'oublie le nom officiel de la seconde. Et à l'issue de ces deux années, je suis rentré à ce qui s'appelait alors l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, qui depuis a migré à Lyon. L'ENS de Lyon. Et c'est là que s'est déroulé, après ces deux années de classe préparatoire, mes années de formation intellectuelle autour du XVIIIe siècle, les littératures.
C'était votre premier choix, cette école normale ?
Oui, je n'avais qu'un, en fait. À l'époque, l'école normale n'était pas du tout... Il n'y avait pas, par exemple, de pôle commun de sujets. Mmh. Hein, et il y avait même deux écoles normales, garçons et filles, une à Paris, une à Saint-Cloud et à l'ENS. J'ai fait partie de la première génération des garçons qui sont entrés dans une école de filles à Fontenay. C'était des fontenaisiennes. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que dans l'internat, tout était écrit au féminin. En cas d'incendie, prévenez votre voisine, etc. Ces deux écoles, Fontenay et Saint-Cloud, ont fusionné rapidement. Les deux écoles d'Ulm et de Sèvres ont fusionné. Saint-Cloud est parti à Lyon, mais j'avais que ce choix-là. J'étais un moderne, j'avais fait peu de latin, je ne devrais pas le dire si le podcast est entendu par mes amis et collègues latinistes. Et donc je me suis présenté dans ce qui s'appelait une prépa hypoclou, ça se disait. Ce n'était pas hypocagne, et ça préparait uniquement au concours de Fontenay-Saint-Cloud.
Très bien, et pourquoi le XVIIIe siècle?
Ah, ça c'est une autre question. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre pourquoi, mais je dirais... Parce que j'ai eu un grand professeur, que je n'étais pas toujours un élève qui prenait beaucoup de notes, mais j'écoutais. Et il y a un monsieur qui a arrêté mon attention quand je préparais l'agrégation. Il s'appelle Georges Benricassa. Il vient de sortir un très grand livre, presque testamentaire sur les Lumières, l'achèvement des Lumières. Je ne comprenais pas toujours ce qu'il disait. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que les choses intéressantes, c'est celles qu'on ne comprend pas tout à fait. Il ne faut pas être tout à fait perdu, mais il faut quand même avoir une petite dose d'incompréhension, de curiosité. Et Georges Benricassa nous a lu un texte de Kant, d'Emmanuel Kant. Et ce texte de Kant, qui s'appelle « Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», finalement, j'ai découvert très tardivement, je crois qu'aujourd'hui, il a étudié dès le bac. Moi, c'était en agrégation, donc vous voyez que ce n'était pas très tôt. Et c'est grâce à ça, ou à cause de ça, que je me suis dirigé vers le XVIIIe siècle.
Et donc, après vos études, vous avez accédé à la fonction de maître de conférence, c'est cela?
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de rentrer à l'école normale au moment où la génération des 68ards n'arrivait pas à la retraite, mais l'avait en perspective. Et donc, il y a une espèce de rupture démographique. Et au début des années 80, le système qu'on appelle aujourd'hui des contrats doctoraux, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était l'équivalent, est né. Et donc, la possibilité se présentait à des normaliens ou à des non-normaliens de recevoir des fonds pendant 3 ans pour effectuer une thèse. Et c'est ce que j'ai fait.
Comment est-ce que il y a un concours, il y a quelque chose à passer ?
Pour être recruté comme maître de conférence ?
Oui.
Oui, c'est tout à fait ça. L'agrégation, le CAPES, sont des concours nationaux que tout le monde connaît. Mmh. Mais le mot qui convient au mode de recrutement des maîtres de conférence, c'est effectivement un concours. C'est la saison des concours en ce moment, dans les murs où nous sommes. C'est-à-dire
c'est
que
parfait.
Les postes, oui, on est en pleine actualité. Enfin, ça va commencer la semaine prochaine. On fait paraître, le ministère fait paraître un nombre de postes disponibles et chacun peut se porter candidat sur un de ces postes. Et donc, c'est un concours qui peut parfois réunir peu de candidats dans certaines spécialités étroites, mais de toute façon, ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Leurs dossiers sont examinés par ce qui s'appelle un COS, un comité, non pas de spécialistes, je suis en train d'oublier le sens, j'oublie le sens moderne de COS, un comité de sélection.
D'accord.
Ce comité de sélection classe les dossiers, auditionne les candidats qui ont été classés, et c'est véritablement un concours qui attire des Français, bien sûr, mais aussi de plus en plus de candidats étrangers. C'est donc un concours, oui.
Et quelles en sont les modalités ?
Eh bien, il faut présenter un dossier, donc un dossier, un bilan de son existence scientifique, pédagogique, hein, et qui est lu par le comité, lequel comité ferait un premier tri. Et là, après, il y a une vraie audition en présence avec bombardement de questions, évaluation de la qualité pédagogique à la manière de présenter les choses. C'est à la fois subjectif et objectif. Et on est classé premier, deuxième, troisième, quatrième. On peut se présenter à autant de postes que l'on le souhaite. Et on peut être classé premier partout, deuxième, troisième. Et puis le premier classé choisit son poste. Et c'est ainsi que ça se passe annuellement, tous les ans.
Et donc, vous étiez maître de conférence en littérature.
C'est ça.
D'où vous est venu cet attrait pour les lettres ?
C'est une question difficile. Moi, je suis un enfant des années 60, donc la télévision, c'était quelque chose qui était très à distance. Le rapport à la fiction et à la rêverie passait par la littérature, aussi pour des raisons de famille, en quelque sorte. J'ai vécu dans les livres tout le temps, je n'ai aucun souvenir d'avoir appris à lire. Et finalement, il me semble que se diriger vers les métiers de l'enseignement et de l'enseignement de la littérature, c'était une manière de poursuivre le plaisir, en faire un métier en quelque sorte, une passion, hein, en faire un métier. C'est la raison essentielle qui m'a fait choisir la littérature. J'ai beaucoup hésité entre littérature, philo, histoire, anglais, et finalement la littérature c'était mon langage naturel, peut-être un peu par paresse aussi, c'est là où j'avais le moins d'efforts à fournir peut-être, mais c'est comme ça que ça s'est décidé.
Après avoir été maître de conférence, vous êtes devenu professeur de faculté.
Voilà.
Comment vous avez accédé à ce poste ?
Alors c'est un nouveau concours.
D'accord.
Je ne veux pas faire toute l'histoire des...
C'est une suite logique, en revanche.
Pas forcément. Pour moi, ça ne l'était pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir et d'enseigner. Mais je suis venu ici presque pour des raisons de... J'étais lassé des voyages. J'habitais déjà Tours à l'époque. Et donc, une des questions que vous posiez dans le petit document que vous m'avez adressé, c'était quelle promotion, comment peut-on progresser, évoluer ? Il y en a très peu de progression, d'évolution. C'est vrai aussi pour les enseignants du secondaire. Oui. Devenir professeur est une occasion de se remettre en mouvement, hein. Et donc, ma foi, j'ai recommencé le processus, et là, c'est un processus un peu différent, enfin le même. On fait une deuxième thèse, si l'on veut, on présente un dossier d'HDR, habilitation à diriger les recherches. Et là, on refait une deuxième étude, un deuxième livre, on regroupe tous ces travaux, et puis on les soumet à la lecture d'un comité national par discipline, qui nous rend bon pour le service ou non. Ça vaut aussi pour les maîtres de conférence. Et après, eh bien, on se présente à nouveau, on recommence à se présenter dans des concours de recrutement, et cette fois-ci, de professeurs.
En quoi consiste concrètement votre métier d'enseignant-chercheur ?
Alors ça, c'est une question difficile ou très facile. Ce qui frappe, ce que je peux peut-être dire, c'est que les enseignants-chercheurs ont au moins deux métiers. Si vous étiez professeur dans le secondaire, vous seriez professeur. Mmh. Si vous étiez chercheur au CNRS ou à l'INRAE, vous seriez chercheur. En université, on est enseignant-chercheur, donc les deux piliers principaux du métier, c'est l'enseignement et la recherche. Mais nous sommes aussi ceux qui, avec les équipes de BIATS, vous connaissez les personnels BIATS, hein, bibliothécaires, ingénierie, administration, sciences, société, santé, technique, société, santé, eh bien, c'est nous qui avons la charge. Nous accomplissons des travaux collectifs, d'intérêt collectif. Et donc, ce métier a au moins trois facettes. Hein. Et sans les billets, nous serions incapables d'effectuer même les premières facettes, les secrétariats pédagogiques, on a besoin d'eux pour enseigner, etc. Donc ce métier a trois faces. Comment se passe, à quoi consiste mon métier ? D'essayer de jongler aussi bien, aussi mal que possible, mais aussi bien que possible, avec ces diverses facettes. C'est parfois assez dispersant, assez dispersé. Il y a des moments dans la carrière où on privilégie un aspect. On peut demander un congé de 6 mois pour finir un livre, par exemple. On laisse tomber 6 mois d'enseignement, on est allégé de ça. Mais c'est une jonglerie permanente. Et je dirais presque, d'une certaine façon, qu'une large part de mon métier aujourd'hui, c'est de répondre à des mails d'étudiants. Et je ne dis même pas ça ironiquement. C'est vrai.
Est-ce que vous accompagnez des doctorants dans leur thèse ?
Évidemment, c'est le béaba de l'accompagnement de la thèse. Mais là... je prends en compte la nature du sujet, la nature de la personne que j'ai devant moi. Et donc, j'essaye d'avoir un discours et des pratiques aussi près que possible des demandes de l'étudiant. Et c'est très difficile. Certains veulent être tranquilles dans une autonomie qu'il faut veiller à ne pas, il faut veiller à ce qu'elle ne devienne pas une solitude, un isolement scolastique, disons. Hein. Mais d'autres sont au contraire très demandeurs de renseignements, d'aide. Et donc, moi, je m'adapte à leurs demandes. Hein. Mais c'est aussi un accompagnement tous azimuts, savoir que c'est une épreuve d'écrire une thèse. Et c'est un morceau de vie que l'on vit avec l'étudiant.
Combien de temps, en général, ça prend d'écrire une thèse? Je sais qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais...
Il y en a un sur le papier. Hein.
Oui, c'est trois ans.
Trois ans, mais ça peut être, on peut rajouter deux, parfois trois ans, hein, ça peut aller jusque-là. Et là, il faut bien penser que le langage de l'université est largement scientifique et métaphorique pour nous. Quand on parle d'un labo, vous vous doutez bien que je ne mets pas une blouse blanche pour aller travailler. Et là, c'est la même chose. Certaines thèses de science peuvent tenir en trois ans. Elles ne sont pas forcément très grosses, mais demandent beaucoup de manipulations, par exemple, beaucoup de travail en labo. Donc, il y a une souplesse de la chose. Hein. Une thèse en 4 ans, ça se fait correctement. Toi. Mais il y a des exceptions. Et moi, j'aime bien accueillir des étudiants qui ne sont pas forcément justement dans le système des bourses doctorales. Et je sais d'avance, par exemple, des enseignants du secondaire qui veulent faire une thèse. Mmh. Et je sais d'avance que ça prendra du temps, qu'ils ne sont pas financés pour ça. Et j'adapte mon accompagnement à la nature, à l'individu qui est face à moi.
Justement, à propos des financements, est-ce qu'en lettres ou généralement en sciences humaines, il y a encore des financements qui sont possibles?
Tout à fait. Oui. Je viens de recevoir la liste des bourses régionales, ils en ont supprimé deux, et des bourses de thèse de l'université, donc destinées aux lettres et sciences humaines. Oui, bien sûr, il y en a. Le nombre est un tout petit peu restreint. Par exemple, je sais que les normaliens, maintenant, il n'y a pas une bourse par normalien. Il y a un concours parmi les normaliens, etc. D'accord. J'ai appris ça récemment, on m'a demandé des expertises. Mais oui, il y a encore des financements qui se font tout à fait, qui sont disponibles pour des étudiants en lettres et sciences humaines.
Et comment font ceux, justement, qui veulent continuer une thèse et qui n'ont pas de financement?
C'est difficile. Mmh. C'est vraiment difficile. On peut avoir, par exemple, quand on est enseignant de secondaire, on peut être disponible pendant un an. Ça m'est arrivé d'avoir des gens en thèse qui ont été pendant un an mis à disposition de la recherche, en quelque sorte, pour achever leur thèse. Mais c'est souvent dans les interstices des loisirs que l'on peut travailler sa thèse quand on a un métier à temps plein, quel qu'il soit. Hein. On peut avoir des gens qui font tous les métiers. Et donc, ça prend forcément beaucoup plus de temps.
Est-ce que vous avez une journée type?
La journée type, franchement, c'est varié. Hier, je suis allé faire une conférence hier pour l'université de Tousage, enfin, toutes les universités libres de Vendôme. Donc, j'ai passé ma journée à ça, le temps d'y aller, etc. J'aurais du mal à vous répondre ça. Le mail occupe, c'est un fil rouge de mon activité, la préparation des cours, la correction des copies par cycle, par moment, on est débordé. Donc, on essaie de jongler avec les diverses choses. Là, j'ai été mobilisé pendant 3 jours pour boucler cette conférence, donc je ne laisse pas beaucoup de temps au reste. C'est vraiment pas si facile que ça. Mais disons, c'est un mélange, parfois un peu déstabilisant, entre divers ordres d'activités qui sont très contrastés, très différents en fait.
Donc, vous comptiez d'assurer des conférences,
oui.
Vous êtes enseignant, vous suivez des doctorants,
oui.
Mais est-ce que vous continuez à faire des recherches, au moins à publier des travaux? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Normalement, on est vraiment enseignant-chercheur. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'équilibre entre ces diverses activités varie au cours de la carrière. Même oui. Sur 5 ans, on change bien. Oui, évidemment. Hein. Bien sûr. Ça prend des allures très diverses. Ça prend des allures de... Je dirige les œuvres complètes de Rousseau avec d'autres camarades aux éditions Garnier. Donc, ça veut dire la gestion, le suivi d'une édition scientifique. J'ai récemment publié mon dernier... Je vais vous dire sur quoi est mon dernier article, publié par l'homme Gavoil ici même. C'est sur les marmottes au XVIIIe siècle. Les marmottes, à la fois les animaux, mais surtout les petites montreuses de marmottes des rues, leur présence dans la littérature, etc. Donc, c'est un article récent. Mon dernier livre collectif concernait tout autre chose, c'était sur l'écriture des musiciens de jazz. Donc oui, on recherche, on publie. Mon dernier grand travail d'ampleur est une autre question sur le XVIIIe siècle que j'espère bien publier prochainement. Oui, je trouve le moyen, mais les années que j'ai passées à la tête de cette filière lettres, par exemple, m'ont été un moment d'été noir pour la recherche. Ça peut se comprendre.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans la recherche?
Qu'est-ce qui me passionne? Je dirais que c'est rendre compte... D'abord à moi-même, d'un malaise, d'une curiosité, de quelque chose qui retient mon attention sans que je le comprenne vraiment. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le professeur dont je ne comprenais pas tout. Je crois que c'est la curiosité devant une difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est ça d'abord qui meut l'écriture d'un article, d'un ouvrage. C'est éclaircir quelque chose qui nous est obscur. Et c'est ça qui me passionne, c'est d'avoir les idées claires à la fin du processus de recherche, quel que soit le sujet. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Hein, c'est, tiens, on voit quelque chose, les scientifiques aussi. Hein, tiens, on découvre quelque chose, mais qu'est-ce que c'est donc, hein.
Et à côté de vos recherches, combien d'heures de cours vous assurez
par, alors, tous les enseignants-chercheurs sont à 192 heures d'enseignement par an. Et donc, ça varie. Par exemple, ce semestre, j'ai beaucoup d'heures et le premier semestre était plus léger. Il y a des années où on a des heures supplémentaires qu'on ne peut pas refuser parce qu'on fait le cours d'agrégation qui vient en plus, etc. Et donc, c'est à la fois très... Moi, je vous le dis franchement, c'est beaucoup trop. Ça paraît ridicule de dire ça. C'est un peu comme si on disait à un journaliste, tu fais une chronique par jour et donc tu travailles 5 minutes par jour. Quoi. Ça, disons, le côté apparent de l'iceberg suppose un lourd travail d'élaboration antérieure qui n'est vraiment pas vain. Et je trouve que la charge d'enseignement depuis les années 80 s'est accentuée. Et justement, l'équilibre qui se faisait autrefois entre recherche et enseignement s'est un peu déséquilibré à la faveur de tâches qui ne sont pas toujours au cœur de la cible.
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'enseignement ?
Eh bien, transmettre, c'est banal, mais c'est vrai, transmettre des savoirs, et des savoirs donc que les étudiants n'ont pas toujours à leur disposition avant le cours. C'est des savoirs qu'on un peu rares, un peu spécialisés. On a la chance de pouvoir encore parler de choses du 7e, le 18e, le 16e siècle, etc. Et donc aussi, l'enseignant-chercheur est supposé enseigner ses recherches. C'est-à-dire, on est à la pointe de la recherche dans un domaine, et c'est aussi ça que l'on fait passer. Plus on avance dans la licence, etc., plus c'est vrai, évidemment. Mais c'est déjà vrai, par exemple, en L2, puisque Camille, vous êtes en L2. Et puis aussi, autre chose, c'est faire penser les gens. C'est peut-être la prétention d'un spécialiste des Lumières. Mais je souhaiterais, dans l'idéal, que l'esprit des étudiants soit mis en branle par un cours, parfois à un endroit où je n'imagine même pas que c'est le cas, hein, mais parce que je pense qu'il est important, justement, que le cours ne soit pas un lieu d'ennui et soit un lieu de, quitte à dériver un peu, un lieu où l'esprit est mis en éveil. Voilà. C'est peut-être un travers d'un 18e-iste, du penser par soi-même, mais ça, c'est ma deuxième ambition.
Après avoir passé une classe préparatoire, dont vous avez passé l'agrégation.
Tout à fait.
Lorsque vous passez l'agrégation, il n'y a pas de cours de pédagogie.
Non.
Est-ce que cela a été une difficulté justement dans cette fonction de transmettre ?
Alors justement, pour parler de la durée des thèses, moi j'ai passé 3 années, plus que ça d'ailleurs, à Lyon, et je n'avais pas tout à fait fini la thèse, et donc j'ai pris un poste dans le secondaire. J'étais 2 ans professeur dans un collège de banlieue parisienne, donc déjà c'est une bonne initiation. Ça n'a jamais constitué pour moi une difficulté, mais peut-être pour les étudiants, mais j'en ai pas conscience. Mais non, j'ai jamais eu tellement de mal. Je pense que je n'ai pas peur des étudiants et je ne joue pas d'une autorité professorale, donc j'ai de bonnes relations, je pense, avec eux, et mon discours doit passer correctement. Et je pense que c'est le cas de la grande majorité des enseignants du supérieur. Mais il est vrai que l'université, en tant que c'est un lieu d'enseignement et de recherche, certains de mes collègues des générations antérieures considéraient la pédagogie presque comme presque une obscénité. Enfin, je parle, on me suit, et qui même me suivent, et qui, ceux qui ne peuvent pas suivre, eh bien, qui ne suivent pas, c'est comme ça, un mode de sélection encore, en quelque sorte. Donc ça disparaît quand même, mais pour l'instant, les universitaires, sauf demande, initiation aux pédagogies modernes, nouvelles, électroniques, etc. Donc on a beaucoup de formations possibles, qu'on les suit ou pas, mais il est vrai que, ministériellement, si je puis dire, il n'y a rien d'organisé pour les enseignants dans le supérieur, sauf que beaucoup d'entre eux ont passé des années dans le secondaire avant d'accéder à l'immense majorité.
Vous êtes libre de fixer le contenu de vos cours ? Comment s'assurer que vous fournissez les éléments pédagogiques essentiels pour vos étudiants et leur future carrière ? Je pense par exemple au concours du CAPES, de l'agrégation.
Ben c'est mon métier. La recherche, c'est nous qui l'écrivons. On connaît le front le plus avancé de la recherche. On fait partie de jury de thèse. On lit ce qui s'écrit le plus actuel dans nos domaines. On a l'expérience des concours, non seulement parce que l'on les a passés, mais qu'on est souvent membre nous-mêmes des jurys. On sait ce qui est attendu des candidats. Et donc, il n'y a pas une obsession du concours. On ne conforme pas nos programmes depuis la L1 dans la perspective des concours. Bien d'entre vous d'étudiants en lettres, deviendront journalistes ou pourquoi pas pépiniéristes. Mais c'est quelque chose qu'on a tout à fait en tête et on sait ce qui est actuel et ce qui va venir. Par exemple, travailler sur l'écriture féminine, on sait d'avance que vous serez confronté à de plus en plus pas forcément au Moyen-Âge, c'est toujours les mêmes malheureusement, mais au 19e, au 18e, même au 19e, au 20e siècle, on sait qu'il y aura de plus en plus d'auteurs femmes, hein, de femmes écrivains, d'autrices dans les concours. Et donc tout ça, on le sait. Hein. La francophonie aussi, on sent qu'arrive ici bientôt un auteur francophone en épreuve de lettres modernes, en littérature comparée. Tout ça, vous y êtes préparé ici, par exemple.
Un enseignant d'université, est-ce que, après, vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution possible, est-ce qu'il peut quand même accéder à des fonctions de direction, par exemple, après un concours ?
Au sein de l'université ?
Oui, ou ce sont des. Parce que, bien sûr, le doyen, il est voté. Mais des fonctions de sous-direction, par exemple, ou départementales
Tout est voté. En fait, c'est encore une fois, avec l'aide aidant les BIATS, nous, c'est les universitaires qui gèrent, pour employer un mot, tous les aspects de la vie universitaire. Le président de l'université est élu.
Oui.
Tous les vice-présidents sont nommés et élus, etc. Les membres de tous les conseils sont élus. Donc, oui, évidemment, accéder aux charges qui percolent jusqu'à un responsable d'année, par exemple,
oui, par
une
exemple.
Année de licence, hein, tout ça donne lieu à négociation, à vote, à désignation.
D'accord. Ouais. Je pensais justement que c'était accessible via concours, les responsables d'année ou autres.
Croyez-moi, il est parfois difficile de trouver des responsables tant la chose tient parfois plus de la corvée que du plaisir. Donc, si on devait en plus passer un concours, je ne pense pas que les candidats soient toujours très nombreux. Mais disons que l'élection est un concours, si on veut.
Sur ce, on passe à la deuxième partie de l'interview, donc spécifique justement à l'université, à l'enseignement supérieur. Le métier d'enseignement-chercheur a-t-il évolué au cours des années, selon vous ?
Oui, bien sûr, il a évolué. J'ai parfois un peu de mal à mesurer cette évolution. Je pense que la charge de travail est de plus en plus importante, de plus en plus lourde, de plus en plus dispersée dans des domaines de compétences qui ne sont pas forcément les nôtres.
Les charges administratives.
Les charges administratives, par exemple, on a passé un an et demi à remplir des fichiers Excel qui dépassaient la longueur de cette table pour rendre compte des choses. On est obligé de glisser notre langage naturel dans des modèles conceptuels qui ne sont pas vraiment les nôtres. Donc la part administrative, je ne parle même pas directement d'administration de l'université, hein, parce que finalement, aider une étudiante qui a une difficulté, c'est aussi de l'administration humaine, est assez prenante. Hein. Tout ce qui est électronique envahit un peu notre espace. Les mails sont, je crois que la première année où je suis arrivé ici, j'ai dû répondre à, presque 1000 mails. Quoi. Donc c'était vraiment beaucoup, c'était l'année du Covid aussi. Donc ça, c'est assez envahissant. Et il y a d'autres aspects qu'on peut avancer. Par exemple, la nécessité aussi, quand on a un projet un peu ambitieux, de trouver ses propres fonds, de faire des dossiers supplémentaires qui viennent nous octroyer des fonds qui nous permettront, européens, régionaux, etc., qui nous permettront de développer nos recherches. Alors, nous, en lettres, on peut parfois se contenter d'un tableau et d'un crayon, d'un papier, d'un ordinateur pour faire des recherches. Mais ça occupe beaucoup de temps des scientifiques parce que, évidemment, quand on fait de la biologie ou de la physique nucléaire, on a besoin de machines, d'appareils qui occupent beaucoup de temps aussi, dont la recherche du financement occupe beaucoup de temps. Ça a changé sur beaucoup d'aspects, et peut-être d'abord sur la quantité les vieux de la vieille. Hein. Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire de Paris, il avait 4 mois de vacances, il ne faisait rien pendant l'année, il ne faisait que le conservatoire. Et il écrivait son œuvre pendant les vacances. Maintenant, celles-ci sont plus courtes. On doit tout faire un petit peu en même temps. Il y a une précipitation du mouvement.
Et les universités, particulièrement en sciences humaines et sociales, ne sont-elles pas saturées de professeurs ?
Ben là, c'est à moi, vous me provoquez, Camille. Mais pourquoi seulement de sciences humaines et sociales ? Pourquoi pas de maths ?
J'entends souvent parler, justement, au niveau des doctorants. Après, je n'invente rien.
Non, mais
souvent, les doctorants disent qu'il est assez compliqué de trouver un poste en sciences humaines et sociales. Et j'ai rencontré beaucoup de professeurs de collège et de lycée qui, à la base, avaient passé une thèse, qui l'ont validée, qui n'ont pas de poste et qui sont en attente d'un poste.
Saturé, je comprends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place disponible.
Oui,
je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en lettres et sciences humaines, effectivement, le terrain est largement occupé. Il y a quand même des créations de postes, il y a des maintiens de postes. Déjà, c'est un miracle, en quelque sorte, de maintenir les postes. Parce qu'il y a toujours l'idée que ces disciplines sont un luxe. Ce que je ne crois pas du tout, mais pas du tout. Je sais même que ce n'en est pas un, mais les débouchés universitaires sont peu nombreux, c'est vrai. Et moi, comme je vous dis, la chance d'arriver dans un creux démographique, et on avait besoin d'enseignement supérieur. Là, ça ne risque pas de baisser, mais il faut se battre pour que, justement, les sciences humaines et sociales conservent leurs enseignants. Et même, on est plus, il suffit d'aller voir un amphithéâtre de psychologie, vous verrez s'il y a trop d'enseignants, ou même de médecine. Il y a quand même des disciplines qui ont un nombre d'étudiants considérable, et par rapport à un nombre de professeurs, ce n'est pas encore le cas ici, mais le renouvellement des postes est un souci, et leur maintien, et quant à leur création, j'avoue qu'effectivement, il n'est pas facile toujours de garantir à un étudiant qui fait une thèse le débouché.
Et justement, comment les jeunes doctorants en lettres se projettent-ils dans leur futur ?
Il faudrait le leur demander à eux. Mm. Hein. C'est de plus en plus concurrentiel, difficile. Et puis la France, pour l'instant, conserve un statut enviable. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent postuler en France. Parce que ça fait très longtemps qu'en Allemagne, en Italie, la situation des lettres et sciences humaines est bien pire qu'en France. Mais il faut se battre pour qu'elle reste acceptable. Comment se projette-t-il ? Moi, beaucoup des gens que j'ai eus, y compris agrégés de lettres, professeurs en secondaire, font une thèse aussi pour eux-mêmes. Moi, j'accepte volontiers des étudiants qui font ça. Et, ma foi, certains sujets peuvent donner lieu à, non pas la certitude, mais de bonnes croyances légitimes en le fait qu'on pourra trouver un poste universitaire. Quoi. Parfois même en s'exilant quelques années à l'étranger, etc.
Lors d'un communiqué de presse en décembre 2023, le président a exprimé vouloir mettre fin au morcellement, je le cite, qui affaiblit la position mondiale des chercheurs hexagonaux. C'est un article du Figaro étudiant publié le 7 décembre. Serait-il possible d'expliquer à nos auditeurs ce que cela signifie ?
Ah, le président, il parle, mais on ne comprend pas tout. Moi, je ne suis qu'un littéraire, donc je ne comprends pas toujours ses paroles. Ce que je vois à l'horizon de cette idée de morcellement, c'est l'idée de précipiter les crédits. Alors c'est un langage que je n'emploie jamais. Moi, je suis un partisan frénétique de la médiocrité, voire de la nullité. Je n'emploierai jamais le mot d'excellence. Enfin, j'ironise, bien sûr, mais le mot d'excellence, je ne l'emploie pas. Employons-le quand même. Peut-être qu'il s'agit ici de mettre l'essentiel des crédits sur des lieux d'excellence, d'éviter la dispersion, le saupoudrage, comme on le dit souvent en langage technocratique. Et c'est sans doute ça qu'il a en tête, éviter la dispersion. Mais bon, Sanofi n'a pas particulièrement brillé lors de la crise du Covid par l'invention du vaccin. Or, c'est une entreprise privée qui a les crédits dont on avait besoin. Ce n'est pas par défaut de crédit qu'elle n'a pas inventé le vaccin qui convenait. Ça, c'est une politique qui vise à terme, à l'extrême horizon, de transformer le réseau universitaire français qui est dense, hein, qui est pas trop dense, mais dense comme il convient, de proximité, en une espèce de machine qui serait peut-être hiérarchisée avec des lieux d'excellence, avec guillemets, ailleurs, et des lieux de simple college, comme diraient les Américains, pour de proximité. Je ne sais pas si Sanofi a réussi son coup, je ne le crois pas, mais je sais qu'ici, par exemple, un vaccin par voie nasale est en train d'être élaboré. Ils sont obligés de former une start-up par Madame Poisson, qui est professeure de biologie. Donc, on réussit à tirer notre épingle du jeu. Mais je pense que l'idée serait quand même de conserver, hein, dans toutes les universités de France, quels que soient les domaines, la plus petite qui soit, il y a des sommités mondiales. C'est vrai. Hein. Mmh. Ah, je ne sais pas, Perpignan cherche des petites universités quantitatives, hein, ou à Arras ou à Lorient. Il y a des sommités mondiales. Il me semble extrêmement important pour la France de garder ce réseau de chercheurs excellents, pas d'excellence. Et si on ne focalise que quelques domaines précis, dont on ne sait pas encore ce qu'ils seront demain, eh bien, c'est une erreur.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, à partir de la rentrée 2024, l'université de Tours fait peau neuve et développe ses programmes. Par exemple, il y a la mise en place d'une double licence droit sciences politiques. Elle transforme aussi ses plaquettes pédagogiques en transformant les cours, les modalités de validation des enseignements. Comment comprenez-vous ces changements ?
Je les comprends d'autant mieux que j'étais au cœur des changements qui sont intervenus dans la maquette avec d'autres, tous les collègues s'y sont mis. Hein. J'ai animé toutes les réunions autour de ces changements. Je les comprends parce que c'est une obligation légale, en fait, d'abord. Hein. Faire peau neuve, j'aimerais bien que ce soit le cas, mais c'est presque une expression trop belle pour la réalité que ça représente. J'espère déjà qu'on va changer la couverture du livret. Ce sera déjà un premier pas un progrès, elle est très belle, mais la renouveler, disons. Donc c'est une obligation légale. Tous les 4 ans, on rend compte des 4 ans écoulés et on propose ce qu'on appelle une nouvelle offre de formation. Et ce que vous décrivez, c'est exactement ça. À la rentrée prochaine, sera mise en place une nouvelle offre de formation. Pas seule création de double licence et pas seulement... droit à sciences politiques, par exemple, mais ici même, hein, nous avons des licences, des doubles licences qui se créent en langue, etc. Donc c'est à la fois un événement rituel et important, qui relève de l'habitude, mais qui est important, et qui permet la création, parfois aussi la suppression, hein, de certains enseignements, mais la création, ici on a aménagé la licence de lettres avec des ouvertures de cours qui n'existaient pas avant. Donc je le comprends comme une nécessité à la fois juridique, on doit rendre compte à la tutelle, comme on dit, mais aussi une occasion pour rectifier des choses qui nous semblent moins bien aller, nous adapter justement aux nouvelles questions littéraires, en l'occurrence je parle pour les lettres, hein, qui ont émergé et auxquelles nous devons faire face, etc. De même, on fait la même chose avec le profil des postes. Quand on met un poste au concours, on le profile en fonction justement des nouveaux enjeux littéraires. Eh bien, ces nouvelles maquettes, c'est un peu du même ordre.
Et est-ce que l'université aussi ne tenterait-elle pas de contrer l'attrait provoqué par les écoles privées ? Il y a de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivent chaque année en école privée.
Ben, grand bien leur fasse, mais je ne suis pas sûr qu'on ait concurrent. Toute l'offre de formation que nous avons proposée, je pense que ça vaut à peu près pour l'ensemble des départements, des spécialités universitaires. Personne ne propose sa nouvelle offre de formation en regardant par-dessus son épaule ce que feraient les écoles privées. Mmh. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en quelque sorte. Ici, par exemple, l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises, vient d'être transformé de département qu'elle était en composante à proprement parler. Et cet institut est en concurrence avec des écoles de commerce qui peuvent exercer dans le périmètre de Tours, par exemple. Mais je pense qu'ils ne font pas exactement la même chose. Et puis, il faut rappeler une chose aussi très simple, c'est que seules les universités sont habilitées à délivrer des diplômes nationaux.
Oui. Hein.
Et donc, on ne va pas aller concurrencer ici les écoles d'art qu'il y a à Tours aussi, par exemple. Hein. Mais si vous voulez faire de la musicologie, vous pouvez faire de la musique au conservatoire, mais si vous voulez faire de la musicologie, ce sera nécessairement à l'université. Donc, on ne va pas empêcher, aucun souhait d'empêcher les gens d'aller s'inscrire dans le privé s'ils en ont les moyens et le désir. Il faut bien choisir leurs écoles, car qui dit privé ne dit pas forcément une garantie de qualité.
Et donc, quels sont les enjeux à venir de l'université française ?
Moi, je vais être assez simple. C'est, maintenir son rôle de service public de l'enseignement, tout simplement, et de faire de Lens de la recherche dans tous les domaines, quels qu'ils soient, humanité, comme on le dit maintenant, comme science dure, comme on le disait encore, etc. Je crois que c'est ça la vraie ambition. Il faut essayer d'être à la hauteur de cette ambition. C'est pas facile, hein. C'est d'autant moins facile que le dernier budget a fait des coupes dans les crédits accordés à la recherche, par exemple, publique. Donc, alors même que le crédit impôt recherche, qui est une espèce de niche fiscale, lui, continue de prospérer, c'est pas facile, il faut se battre pour ça, mais c'est vraiment l'ambition, à mon avis, hein, conserver ce rôle de service public de l'enseignement supérieur et rester, devenir plus encore le fer de lance de la recherche.
C'est bientôt la fin de cette interview et j'ai toujours une question fétiche. Avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager ?
J'ai déjà fait allusion à Georges Benrecasa, qui est à la découverte de Kant, qui m'a littéralement illuminé, puisque s'il s'agissait des lumières, c'est vraiment le mot Aufklärung, ce serait vraiment ça. Mais je vais prendre un souvenir tout récent, c'était hier. Donc je suis allé faire cette conférence, parce que parmi les métiers aussi, les devoirs qui s'imposent à nous, il y a une espèce de devoir de rendre compte au public qui nous paye de l'effectivité de nos recherches. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis allé parler hier à l'Université du Temps Libre de Vendôme, et j'ai parlé du sujet, pour clarifier le titre, lumière et intelligence artificielle. Donc j'ai fait une heure de conférence, et à la fin, j'ai pas eu de questions, donc j'étais un peu déçu. Il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit, monsieur, ça faisait des années que j'étais perturbé, presque physiquement, par le mot influenceur, influenceuse. Je vous remercie vivement de m'avoir expliquer pourquoi ce mot m'énervait si fort. Ben voilà un souvenir tout récent qui n'a même pas 24 heures et qui est un bon souvenir.
Eh bien, monsieur, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette interview. J'espère qu'elle aura plu à nos auditeurs.
Je l'espère aussi. En tout cas, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Pour une fois que ça passait dans ce sens-là, c'est un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt !